chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série Prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous arrivons à l'étude numéro 3 et notre thème sera ôter le voile. Et nous prenons cela dans Hébreux au chapitre 10, verset 19, où il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » De toutes les paroles célèbres des pères de l'Église, aucune n'est mieux connue que celle d'Augustin. Il dit « Car vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Le grand saint traduit ici en quelques mots l'origine et l'histoire intérieure de la race humaine. Dieu nous a fait pour lui. C'est la seule explication qui satisfasse le cœur de l'homme pensant, quoi que puisse en dire sa raison téméraire. Qu'une éducation fautive et un raisonnement pervers conduisent un homme à conclure autrement, et il y a peu de choses qu'un chrétien puisse faire pour lui. Pour un tel homme, je n'ai pas de message. Mon appel s'adresse à ceux qui ont été au préalable enseignés en secret par la sagesse de Dieu. Je parle en effet aux hommes qui sont assoiffés, dont le désir s'est à ce point éveillé au contact de Dieu en eux, qu'ils n'ont pas besoin de preuves raisonnées. Leur cœur tourmenté constitue en effet, la preuve dont ils ont vraiment besoin, c'est pour lui-même que Dieu nous a créés. Le catéchisme abrégé sur lequel les membres de la Sainte Assemblée se sont mis d'accord à Westminster, comme le dit le vieux New England Primer, pose les questions traditionnelles « Pourquoi ?» et « Comment ?» et répond à ces questions par une courte phrase qu'arriverait difficilement à égaler un ouvrage qui serait non inspiré. Question. Quelle est la raison d'être principale de l'homme ? Réponse. La raison d'être principale de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. À cette réponse acquiescent les 24 vieillards qui se prosternent face contre terre pour adorer celui qui vit au siècle des siècles en disant « Oui, tu es seul digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, verset 11. Donc Dieu nous a créés pour son plaisir. Et il nous a créés de telle manière que nous puissions aussi bien que lui nous réjouir dans une communion divine de la douce et mystérieuse intimité de personnalités qui vivent en parfaite intelligence. Il a voulu que nous le voyions, vivions, avec lui et tirions notre vie de son sourire. Mais nous, nous sommes rendus coupables de cette affreuse révolte dont parle Milton quand il décrit la rébellion de Satan et de ses acolytes. Nous avons rompu avec Dieu. Nous avons cessé de lui obéir et de l'aimer. Et nous avons fui, honteux et craintifs, nous avons fui loin de sa face. Pourtant, qui peut fuir sa présence quand le ciel et le firmament même ne peuvent le contenir? Et quand, comme l'atteste Salomon dans sa sagesse, l'Esprit de l'Éternel remplit l'univers, l'omniprésence de l'Éternel est une chose, est un fait solennel nécessaire à sa perfection. Toutefois, sa présence se manifeste en est une autre. Et nous, nous avons fui sa présence tout comme Adam. Oui, Adam a fui pour se cacher parmi les arbres du jardin, ou comme l'apôtre Pierre, qui dans un mouvement de recul s'est écrié « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Saint Luc, chapitre 5, verset 8. Ainsi la vie de l'homme sur terre est une vie errante, hors de sa présence, éloigné de ce centre de bénédiction qui est notre demeure véritable, notre premier domaine, que nous n'avons pas su garder et dont la perte est la cause de notre perpétuelle agitation. Toute l'œuvre de la rédemption de Dieu a pour but d'enrayer les effets tragiques de cette affreuse révolte et de nous faire entrer de nouveau dans une relation juste et éternelle avec lui. Pour cela, il a d'abord fallu que le problème de nos péchés soit réglé de façon satisfaisante, qu'une pleine réconciliation avec Dieu nous soit acquise et que le chemin nous soit ouvert pour que nous puissions retrouver une communion consciente avec Dieu et que nous puissions vivre de nouveau dans sa présence. Ensuite, par un travail en nous qui précède toute action de notre part, il nous pousse à revenir à lui. Nous en prenons conscience quand notre cœur agité commence à désirer profondément la présence de Dieu, et que nous nous disons en nous-mêmes « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Ça, c'est le premier pas. Et comme le sage chinois Lao Tzu l'a dit, « Un voyage de 1000 bornes commence au premier pas. » Oui, le voyage intérieur de l'âme, depuis les régions sauvages du péché jusqu'à la félicité de la présence divine, est magnifiquement illustré par le tabernacle de l'Ancien Testament. Le pécheur repentant. Ce pécheur entrait d'abord dans la cour extérieure, je dis extérieure, où il offrait un sacrifice sanglant sur l'autel d'airain et se levait dans le bassin adjacent. Là, il se lavait. Ensuite, passant de l'autre côté du voile, il se rendait dans le lieu saint où la lumière naturelle ne pouvait entrer, mais où le chandelier d'or, symbole de Jésus, lumière du monde, jetait sa douce lueur aux alentours. Là se trouvaient aussi les pains de proposition qui annonçaient Jésus, le pain de vie, et l'encens de l'autel, qui est le symbole de la prière incessante. Bien qu'à ce stade, l'adorateur ait déjà pu goûter de merveilleux moments, il n'était cependant pas encore entré dans la présence de Dieu. Un autre voile le séparait du lieu très saint où sur un trône des miséricordes, Dieu lui-même siégeait dans sa manifestation terrible et glorieuse. Tant qu'il y a eu le tabernacle, seul le grand prêtre était autorisé à y entrer, et ceci une fois par année seulement, en offrant le sang des victimes en expiation pour ses péchés et pour les péchés de son peuple. C'est ce dernier voile qui se déchira quand notre Seigneur rendit l'esprit sur le mont du Calvaire. L'auteur du texte sacré explique que ce voile déchiré a donné à chaque adorateur dans le monde accès au chemin nouveau et vivant qui mène directement dans la présence divine. Tout dans le Nouveau Testament s'accorde avec ce tableau de l'Ancien Testament. Les hommes rachetés n'ont plus à avoir peur d'entrer dans le Saint des Saints. Dieu veut que nous nous frayons un passage jusqu'à lui pour que, une fois dans sa présence, nous y vivions toute nature et, on peut dire, de toute notre vie. Nous devons donc le faire par une démarche consciente. C'est plus qu'une doctrine, cela. C'est une vie vécue dans la joie, chaque moment de chaque jour. La flamme de la présence divine constituait le cœur vibrant de l'ordre lévitique. Sans cette flamme, tous les objets pieux du tabernacle n'auraient été que des hiéroglyphes impossibles à comprendre. En effet, ils n'auraient eu aucun sens pour Israël ni pour nous. Or, le fait le plus important du tabernacle était que Yahvé l'Éternel se trouvait là. Il se trouvait là une présence et il attendait derrière le voile. De la même façon, la présence de Dieu est le fait central du christianisme. Au cœur du message chrétien, c'est Dieu lui-même qui attend que ses enfants rachetés viennent à lui, pleinement conscients de sa présence. Le type du christianisme maintenant à la mode, qui est maintenant à la mode, connaît cette présence seulement en théorie. Il oublie d'insister sur le privilège que le chrétien d'en connaître la réalisation dès à présent. Selon ces enseignements, nous sommes dans la présence de Dieu quant à notre position, mais rien n'est dit sur le besoin d'expérimenter cette présence de façon réelle. L'impulsion ardente qui a conduit les hommes tels que Mark Shane nous manque totalement. La génération actuelle de chrétiens se mesure à cette règle imparfaite. Une vile satisfaction, on peut dire, je répète, une satisfaction pas très saine a pris la place d'un zèle enflammé. Nous nous contentons de nous reposer sur nos possessions, de justifier. Et là, la plupart du temps, nous nous inquiétons fort peu de ne pas vivre des expériences qui nous sont personnelles. Qui est celui qui se tient derrière le voile et qui se manifeste avec puissance? il n'est nul autre que Yahvé l'Éternel lui-même, un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant, on peut dire le Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père, de la même nature que le Saint-Esprit, qui donne la vie et qui procède du Père et du Fils, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Alléluia. Cependant, cette Sainte Trinité n'est qu'un seul Dieu, car nous adorons un seul Dieu en trois personnes distinctes, et trois personnes distinctes en un seul Dieu. Donc, ne confondons pas les personnes et ne divisons pas l'unique substance, car le Père est une personne. Le Fils Jésus-Christ en est une autre, et le Saint-Esprit encore une autre. Toutefois, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est unique. Leur gloire est égale et leur majesté coéternelle. Je répète, leur majesté ensemble est coéternelle. Ainsi l'exprime les credos anciens et ainsi le déclare la sainte parole révélée. Derrière le voile, il y a donc Dieu, ce Dieu de qui les hommes, par une étrange inconséquence, ont pensé si seulement nous pouvions le trouver. Il s'est révélé jusqu'à un certain point dans la nature, mais plus parfaitement dans l'incarnation. Il attend maintenant l'instant où il se révélera dans sa totalité à celui et à celle qui est humble d'esprit et qui a le cœur pur. Le monde périt, oui, le monde périt par manque de connaissance de Dieu. Et l'Église est affamée par manque de sa présence. Le remède instantané à la plupart de nos maux religieux serait d'entrer dans la présence de Dieu par une expérience spirituelle, de devenir soudain conscient que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Cette expérience nous ferait sortir de notre étroitesse pitoyable et élargirait nos cœurs. Elle brûlerait de nos vies les impuretés, tout comme les parasites et les insectes ont été détruits dans le feu du buisson ardent. Notre Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et un monde si grand est une étendue d'eau si vaste à parcourir, car il est éternel, ce qui signifie qu'il est avant le commencement des temps et reste entièrement indépendant du temps. Le temps a commencé en lui et finira en lui. Il n'est en rien redevable au temps, et le temps n'a aucun effet sur lui. Il est immuable, ce qui veut dire qu'il n'a jamais changé et ne changera jamais, pas même d'un iota. Changer, c'est aller du meilleur au pire ou du pire au meilleur. Il ne peut faire ni l'un ni l'autre, car étant parfait, il ne peut devenir plus parfait. Et s'il devait devenir moins parfait, il serait moins Dieu. Donc, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît en un seul acte volontaire et sans aucun effort, toute matière, tout esprit, toute relation, tous les événements. Il n'a ni passé ni futur. Il est. Et aucun des qualificatifs qu'on attribue aux créatures ne s'applique à lui. L'amour, la miséricorde et la justice sont en lui, et une sainteté si ineffable qu'aucune comparaison ni aucune image ne pourrait l'exprimer. Seul le feu peut en donner une idée très vague. Il apparut dans le buisson ardent. Il séjourna dans la colonne de feu pendant tout le voyage dans le désert. Le feu qui rougeoyait entre les ailes du chérubin dans le lieu saint était appelé la Shekinah, c'est-à-dire la présence, et ce tout au long des années de la gloire d'Israël, et quand l'Ancien Testament céda la place au Nouveau Testament, il vint à la Pentecôte sous la forme d'une langue de feu et il se plaça sur chaque disciple. Shinoza a écrit au sujet de l'amour intellectuel de Dieu et ce faisant, il a émis une partie de la vérité. Mais l'amour le plus grand de Dieu n'est pas intellectuel, mais il est spirituel. Car Dieu est esprit, et seul l'esprit de l'homme peut le connaître réellement. Au plus profond de l'esprit de l'homme, le feu doit brûler, sinon son amour pour Dieu n'est pas véritable. Les grands du royaume ont été ceux qui ont aimé Dieu plus que les autres ne l'ont aimé. Nous savons tous qui ils étaient et nous rendons de tout cœur hommage à la profondeur et à la sincérité de leur dévotion. Qu'il nous suffise de nous arrêter un instant et leurs noms viendront en foule à notre esprit, sortis tout droit des palais d'ivoire et embaumant la myrrhe et l'aloé. Frédéric Faber fut un de ceux dont l'homme avait soif, son âme avait soif de Dieu, tellement, de la même façon que le cerf soupire après le courant des eaux. La force avec laquelle Dieu se révéla à son cœur avide de vérité enflamma la vie de cet homme en une adoration ardente qui rivalisait avec celle des séraphins devant le trône. Son amour pour Dieu s'étendait également aux trois personnes de la Trinité divine. Pourtant, il semblait éprouver pour chacune d'elles un amour particulier. Il chante pour Dieu le Père et il dit « S'asseoir simplement et penser à Dieu, quelle joie !» Pensez cette pensée, respirez ce nom. La terre n'a pas de félicité plus grande. Père de Jésus, ce don d'amour, quelle extase sera-ce de rester là, prosterné devant ton trône, à te contempler, à te contempler toujours. Or, son amour pour la personne de Christ était si intense qu'il menaçait de le consumer. Cet amour brûlait en lui comme une sainte et douce folie et s'échappait de ses lèvres comme de l'or pur. Dans un de ses sermons, il dit « Où que nous tournions les regards dans l'Église de Dieu, eh bien Jésus est là. Il est le commencement, le milieu, et la fin de toute chose pour nous. Il n'est rien de bon, de saint, de beau, de joyeux, qu'il ne soit pour ses serviteurs. personne ne doit se sentir pauvre, car s'il le veut, il peut avoir Jésus en propriété et en possession. Personne n'a de raison d'être abattu, car Jésus est la joie du ciel, et c'est avec joie qu'il entre dans les cœurs attristés. On peut exagérer à propos de beaucoup de choses, mais nous n'exagérerons jamais de tout ce que nous devons à Jésus ou l'immense compassion de son amour pour nous. Toute notre vie durant, nous pourrions parler de Jésus sans jamais cependant arriver à dire toutes les choses merveilleuses qu'on pourrait dire de lui. L'éternité ne sera pas assez longue pour apprendre à le connaître entièrement ou pour le louer de tout ce qu'il a fait. Mais qu'importe, car nous serons toujours avec lui et nous ne désirons rien d'autre. S'adressant au Seigneur lui-même, Frédéric Fabre lui disait « Je t'aime tellement que je ne sais comment contrôler ma flamme. Ton amour est comme un feu brûlant au fond de mon âme. » Oui, l'amour brûlant de Fabre s'étendait aussi au Saint-Esprit. Non seulement dans sa théologie reconnaissait-il sa divinité et sa pleine égalité avec le Père et le Fils, mais il le célébrait constamment dans ses chants et dans ses prières. Il se prosternait littéralement jusqu'à terre dans son adoration fervente et ardente pour la troisième personne de la Trinité. Dans un de ses grands hymnes dédiés au Saint-Esprit, il résume ainsi son ardent de dévotion. Il dit « Ô Esprit, magnifique et terrible, mon cœur est prêt de se briser. Par amour pour toute ta tendresse envers nous, pauvres pécheurs. J'ai pris le risque de vous ennuyer peut-être avec ces citations, afin de vous montrer par un exemple précis ce que j'ai à cœur de vous dire. Dieu est si grand et si extraordinaire, si profondément merveilleux, qu'il peut uniquement, par lui-même, satisfaire aux besoins les plus secrets de notre nature toute entière et nous combler davantage encore, aussi mystérieuse et profonde que soit notre nature. L'adoration que connaissait Fabre, et il n'est qu'un homme parmi une multitude impossible à dénombrer, ne peut venir de la simple connaissance doctrinale de Dieu. Les cœurs qui sont prêts de se briser par amour pour la Trinité sont les cœurs de ceux qui se sont tenus en la présence et qui ont vu, vraiment, qui ont vu de leurs propres yeux la majesté de Dieu. Ces hommes-là, au cœur brisé, avaient en eux cette qualité particulière que le commun des mortels ne connaît ni ne comprend. En général, ils parlaient avec une autorité spirituelle. Ils étaient entrés dans la présence de Dieu et racontaient et dont ils avaient été témoins. Ils étaient des prophètes et non pas seulement des scribes, car le scribe nous raconte ce qu'il a lu, mais le prophète nous dit ce qu'il a vu. Cette distinction n'est pas du tout imaginaire. Entre le scribe qui a lu et le prophète qui a vu, la différence est aussi vaste que la mer. Aujourd'hui, nous sommes submergés de scribes orthodoxes. Mais où sont les prophètes? Je vous le demande. La dure voix des scribes résonne dans le monde évangélique, mais l'Église attend la douce voix du Saint qui a pénétré le voile et qui a contemplé intérieurement la merveille qu'est notre Dieu. Pourtant, pénétrer ainsi dans le sanctuaire, s'introduire dans la sainte présence et de vivre là de façon sensible, cela est un privilège qui est offert à tout enfant de Dieu. Le voile a été ôté par la déchirure du corps de Jésus. Oui, et rien de la part de Dieu ne nous empêche d'entrer dans le Saint des Saints. Alors pourquoi nous attardons-nous au dehors? Oui, pourquoi? Pourquoi consentons-nous à demeurer chaque jour de notre vie, à l'extérieur du Saint des Saints, sans jamais entrer pour contempler Dieu? Nous entendons l'époux dire « Laisse-moi contempler ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix, elle est douce, et ton visage est aimable. » Nous sentons que cet appel s'adresse à nous vraiment, à nous, et ne nous approchons toujours pas. Si les années passent, et là nous vieillissons, et nous nous fatiguons dans les cours extérieurs du tabernacle, ce qui est une erreur. Qu'est-ce donc qui nous retient pour y entrer? La réponse que l'on donne généralement, à savoir tout simplement que nous sommes froids, cela n'expliquera pas tout. Il y a quelque chose de plus sérieux que la froideur du cœur, quelque chose qui peut se cacher derrière cette froideur et qui en est la cause. Qu'est-ce donc? Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas autre chose qu'un voile dans nos cœurs. Oui, un voile qui n'a pas été ôté comme l'a été le premier voile, mais qui reste là, masquant la lumière et nous dérobant la face de Dieu. C'est le voile de notre nature charnelle, déchue, qui continue de vivre dans le péché, sans même que nous lui portions de jugement ou la crucifixion ou la répudition. C'est le voile étroitement tissé d'une vie personnelle égoïste que nous n'avons jamais vraiment reconnue comme étant telle, dont nous avons eu honte et que pour ces différentes raisons, nous n'avons jamais remis au jugement de la croix. Ce voile opaque n'est pas si mystérieux ni si difficile à identifier. Il nous suffit simplement de regarder dans notre propre cœur et nous l'y verrons, peut-être cousu, rapiécé et même raccommodé, mais là néanmoins ennemi de notre vie et véritable obstacle à notre progrès spirituel. Ce voile n'est pas une belle chose et ce n'est pas une chose dont on parle généralement, mais je m'adresse aux âmes assoiffées, à ceux qui ont décidé de suivre Dieu, et je sais qu'elles ne feront pas marche arrière, même si le chemin les conduit temporairement à travers de sombres vallées. L'appel de Dieu en eux assurera qu'ils continuent leur quête. Ils regarderont les faits, aussi déplaisants soient-ils, et ils endureront la croix pour la joie, oui, pour la joie qu'elle leur fait entrevoir. Je n'ai pas peur de donner un nom à ces fils dont ce vieil intérieur est tissé. Il est tissé de fils tenus de la vie égoïste, des péchés auquel s'attache l'esprit humain. Ces péchés ne sont pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous sommes en réalité, et en cela réside à la fois leur subtilité et leur pouvoir. Pour être précis, les péchés de la vie égoïste sont les suivants. C'est de pratiquer sa propre justice, c'est de s'apitoyer sur son sort, c'est avoir confiance en soi-même, c'est se suffire à soi-même, s'enorgueillir, être épris de soi-même. Tout cela est une foule d'autres péchés qui leur ressemblent. Ils sont trop ancrés en nous et font trop partie de notre nature pour que nous y prêtions attention jusqu'à ce que la lumière de Dieu les mette en évidence. Les manifestations les plus flagrantes de ces péchés, à savoir l'égoïsme, l'arrivisme, tout cela sont étrangement tolérés par les dirigeants chrétiens, même dans les cercles d'une impeccable orthodoxie. Ils sont tellement mis en évidence que beaucoup de gens vont jusqu'à les confondre avec l'Évangile. Je pense que ce n'est pas être cynique de dire qu'ils apparaissent aujourd'hui comme un instrument de popularité dans certaines sections de l'Église visible. Favoriser son propre avancement sous le couvert de faire avancer le règne de Jésus-Christ est si banal et si courant que cela éveille peu l'attention. On pourrait supposer qu'une instruction adéquate en ce qui concerne l'homme pécheur et la nécessité d'être justifié par la seule justice de Christ nous délivrerait de la puissance des péchés du moi égoïste, mais il n'en est pas ainsi. Le moi pécheur peut vivre sans se repentir jusqu'à devant l'autel même. Il peut regarder la victime sanglante mourir et ne pas être le moins du monde touché par ce qu'il voit. Il peut même lutter pour la foi des réformateurs et prêcher avec éloquence le credo du salut par grâce, et il peut gagner de la force par ses efforts personnels. Pour dire toute la vérité, il semble réellement se nourrir d'orthodoxie et est plus à l'aise dans une conférence biblique que dans une taverne. Même notre aspiration après Dieu peut fournir au moi un excellent moyen de prospérer et de grandir. Le moi, c'est le voile opaque qui nous cache la face de Dieu. Il ne peut être ôté que par une expérience spirituelle, jamais par une simple instruction. Autant essayer au moyen de l'instruction d'enrayer la lèpre de notre système. Il faut que Dieu détruise avant que nous puissions être libres. Nous devons permettre à la croix d'opérer ce travail de destruction en nous. Nous devons apporter nos péchés personnels devant la croix afin qu'il y soit jugé. Nous devons nous préparer dans une certaine mesure à une épreuve de souffrance comme celle de notre Seigneur quand il a souffert sous Ponce Pilate. Rappelons-nous ceci, quand nous parlons de la déchirure du voile, nous utilisons un langage imagé et la pensée en est poétique, presque agréable. Mais dans la réalité, il n'y a rien d'agréable en elle. Dans l'expérience humaine, ce voile est le fait de tissés spirituels vivants. Il est composé d'une matière sensible et vibrante dont est constitué tout notre être. Et y toucher, c'est nous toucher là où nous souffrons vraiment. L'arracher, c'est de nous blesser, nous faire mal et nous faire saigner. Et dire autrement, c'est nier la croix et la mort. Il n'est jamais drôle de mourir. Tailler dans cette matière sensible et tendre dont est faite la vie ne peut être que profondément douloureux. Cependant, c'est exactement ce que la croix a fait à Jésus, et c'est aussi ce que la croix doit faire à tout homme pour le rendre libre. Chers amis, prenons garde de ne pas nous occuper nous-mêmes de notre vie intérieure dans l'espoir de briser ce voile par nous-mêmes. Dieu doit faire toutes choses pour nous. Notre rôle est de céder et d'avoir confiance. Nous devons nous confesser, nous abandonner, répudier le moi, et puis le compter comme crucifié. Mais nous devons faire attention à bien distinguer entre l'acceptation paresseuse et l'œuvre réelle de Dieu. Nous devons insister pour que cette œuvre s'accomplisse. Nous n'oserons pas nous contenter d'une doctrine approximative sur la crucifixion du moi. Insistez donc pour que notre œuvre soit faite en toute vérité, et elle le sera. La croix, elle est rude, et elle est un signe de mort, puis elle est efficace. Elle ne garde pas sa victime pendant simplement être là pendu au bois pour toujours. Ah non, il vient un moment où son œuvre au bois est accomplie et où la victime qui souffre, elle meurt enfin. Et après cela, vient la résurrection, vient la puissance et la gloire et la souffrance. Elle est totalement le monde oublié à cause de la joie qu'on a de voir ce voile ôté définitivement et d'entrer dans la présence du Dieu vivant par une expérience spirituelle qui est véritable. Prions, chers amis. Seigneur, combien tes voix sont excellentes et combien les voix des hommes sont tortueuses et sombres. Montre-nous comment mourir, afin que nous puissions nous relever à nouveau à la vie nouvelle. Déchire le voile de notre moi, de haut en bas, comme tu as déchiré le voile du temple. Nous voudrions nous approcher dans la pleine assurance de notre foi. Nous voudrions cohabiter avec toi dans une expérience quotidienne ici-bas, afin d'être accoutumés à la gloire lorsque nous entrerons dans ton paradis pour y vivre avec toi. Tout cela, nous le disons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et maintenant, chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous fortifier spirituellement, pour votre enseignement personnel, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien, c'est à la personne de Jésus-Christ, avant tout, qu'il vous faut vous attacher. Être fidèle, ce n'est pas seulement observer les commandements précis de sa parole écrite, c'est avant tout sentir intuitivement ce qu'il attend de vous en raison du commerce intime qui vous unit à lui et qui vous permet de le comprendre en tout. Et pourtant, même dans cette connaissance intuitive, vous ne pouvez parvenir à la vraie fidélité qu'en recevant la force qu'une authentique communion avec lui peut seule conférer. Si donc vous percevez intuitivement son moindre désir, et si dans le même temps vous recevez de Jésus la force de le réaliser, alors l'amour en vous bondira vers le but pour répondre à son attente. Êtes-vous prêt à l'entraînement et la discipline qui est nécessaire? Pensez aux arbres, oui, les arbres en hiver. Ils paraissent inertes, ils paraissent inutiles à ceux qui, par ailleurs, ne comprennent pas quand ce qui vous concerne, c'est votre enracinement en Jésus qui vous rend capable uniquement de soutenir les tempêtes et les rigueurs et la mauvaise saison. Pendant les longs mois d'épreuve, quand votre belle assurance, votre faculté d'aider et de protéger est remise en question, vous êtes en réalité à une dure école où l'on puise force et assurance nouvelle. Le temps où vous pourrez aider les autres reviendra et vous aurez alors appris à ne pas tirer vanité de la beauté de votre feuillage et des bienfaits de l'ombre qui vous projette. Vous les offrirez à ceux qui en ont besoin, mais c'est à lui, à votre Seigneur, que vous en attribuerez toute la gloire. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un lointain passé, 1952, oui, c'est plus d'un demi-siècle. Évidemment, la qualité n'est plus la même qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai enregistré cela quand j'étais un jeune homme. Mais, croyez-moi, l'Esprit Saint s'y trouve et vous communiquera quelque chose de bénéfique. Écoutez bien.
Pray for me until Thank you.